Oui, alors nous allons entrer dans le vif du sujet, donc avec un premier dialogue qui s'intitule Les bibliothèques à la croisée des politiques publiques. Ce dialogue est entre Dominique Lahari, donc je vous invite à venir vous installer, entre Dominique Lahari et Agnès Marcousi. Donc quelques mots sur Anna Marcousi, quelques mots sur nos intervenants. Donc Dominique Lahari est retraité depuis 2015. Il a été directeur de la bibliothèque municipale de Vanves, puis directeur adjoint et directeur de la bibliothèque départementale du Val d'Oise. Il est très impliqué dans le réseau professionnel à travers ses publications, sa veille. Et il est actuellement responsable de la commission bibliothèque en réseau de l'ABF et membre de son comité d'éthique. Également président de la commission développement de la lecture auprès de publics empêchés, dite commission bibliothèque du CNL. Anna Marcousi, quant à elle, dirige les bibliothèques de Strasbourg et de l'Eurométropole depuis septembre 2016. En 2018, elle a organisé notamment avec la BPI une journée d'études à Strasbourg sur l'accompagnement à la citoyenneté. Donc c'est un des axes privilégiés de son action, de sa réflexion professionnelle. Et ce dialogue est animé par Geneviève de Maupéou, qui est donc chargée de projet de coopération nationale à la BPI. Donc je vous laisse la parole.
Merci Justine. Pour introduire ce dialogue entre Anna et Dominique, je voulais simplement rappeler les raisons de notre choix de ces intervenants. Donc Dominique, tu as formalisé toutes les questions que nous allons aborder dans ce dialogue avec Anna, et tes réflexions nous aident à comprendre l'importance d'un positionnement dynamique du bibliothécaire et des bibliothèques au sein de son établissement et de sa collectivité. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons t'inviter à dialoguer avec Anna. Anna, tu mets en œuvre un projet d'établissement d'ampleur avec une ambition pour le service public que tu vas développer, notamment à travers un certain nombre de stratégies que tu es obligé de mettre en place en prenant en compte les différents échelons de ton territoire. On va voir que c'est assez complexe. Et dans cette complexité, tu animes un réseau qui est important et dont tu nous diras aussi les contraintes. Avant de commencer, donc je vais reprendre l'intitulé de ce dialogue qui est « Les bibliothèques à la croisée des politiques publiques », dont la problématique est essentiellement la problématique du positionnement, de montrer les forces en présence, qui sont donc vives et complexes, pour nous permettre d'impulser des projets au sein de nos établissements et de nos territoires. Je voudrais, avant de développer le plan, repartir sur la définition de ce qu'est pour vous, de ce que sont pour vous les politiques publiques. Je ne sais pas qui veut commencer. Dominique, est-ce que tu veux commencer par dire ce qu'est pour toi, qu'est-ce que tu entends par quand on parle de politique publique ?
Alors, quand j'ai commencé dans ce travail-là, c'est une expression qui m'était inconnue. Je ne sais même pas si elle était utilisée. Et au cours de ma carrière, elle m'a paru de plus en plus évidente. Alors d'abord, c'est très bizarre. Est-ce que c'est le contraire de politique privée ? Non, ça n'a pas de sens. Il faut se dire, bon, je suis un grand défenseur de la langue française, mais la langue française a quelques lacunes parfois conceptuelles dans les mots. En anglais, il y a deux termes qui sont extrêmement clairs. C'est « politics » et « policy ». Politics, c'est ce qu'on appellerait la politique politicienne. Je mets là aucune connotation négative, surtout aucune. Mais bon, les partis concourent à l'expression du suffrage, etc. Il y a des organisations, toute cette mécanique qui fait que des hommes, une partie des hommes et des femmes, s'organisent politiquement en groupe et se présentent devant les suffrages. Ça, c'est politique. Et politique publique, alors, il y a des définitions universitaires qui sont, je dirais, dans une logique souvent intentionnelle, c'est-à-dire les pouvoirs publics ont des objectifs, ils élaborent pour cela des programmes, et ensuite il y a toute une discipline qui est l'évaluation des politiques publiques, on va regarder si ce qui s'est passé est conforme aux objectifs, etc. Ça ne me satisfait pas tout à fait cette description intentionnelle, parce que ce que j'ai, moi, me suis rendu compte un peu sur le terrain, c'est qu'il y a toujours des politiques publiques. Les politiques publiques, c'est ce que font des pouvoirs publics et des services publics. Non, nous, dans les bibliothèques, nous agissons dans le cadre de collectivités publiques et nous gérons des services publics et nous faisons de la politique, même sans le savoir, de la politique publique. Et il y a toujours une politique publique, même quand elle n'est pas publiée pour les électeurs, et même quand elle n'est pas énoncée, même quand elle n'est pas formulée avec des mots, et même, je dirais, quand elle n'est pas pensée. Elle existe toujours. Parce qu'il y a toujours des effets, des impacts de ce que fait la puissance publique. Et donc, ça arrive quand même assez souvent que dans une collectivité, où est la politique de bibliothèque ? Enfin, on ne la trouve pas dans un texte, dans un programme électoral. Il y a des choses ponctuelles, des petites déclarations ponctuelles, mais il n'y a pas. Eh bien, il y a toujours une politique. Et si personne ne dit qu'elle est, ben, c'est les bibliothécaires qui la font. Et donc, ils n'y échappent pas. Et donc, ils ne sont pas légitimes pour faire ce dont ils ont personnellement envie de faire, mais ils font au nom d'une puissance publique pour l'intérêt public. Et donc, il y a toujours la politique publique. C'est pour moi, c'est un peu cette définition. Alors, il est plus démocratique que la politique publique soit énoncée, bien sûr, devant les électeurs. Ça, c'est la transparence démocratique. Et ce qui est intéressant, pour sortir de l'intention, c'est que, parce qu'on parle beaucoup de nos missions ou des objectifs, en fait, on a l'habitude de dire que rien ne se passe comme c'est prévu et les gens font autre chose que ce qu'on a prévu, par exemple, dans les... Bon. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la politique publique qui est simplement dans l'intention et qui va voir si ce qui est réalisé est conforme à ses objectifs, elle manque une partie du réel. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe vraiment avec les gens. Ça a été une des leçons de ce qu'on a appelé un peu le troisième lieu. C'est qu'on ouvre des espaces et les gens, ils font ce qu'ils veulent avec ces espaces. Et ils inventent eux-mêmes, ce qui est aussi maintenant ce qu'on découvre dans les bibliothèques, il y a des fonctions d'espace public qui excèdent ce qu'était l'histoire de la collection organisée que j'ai appris, hein, quand j'ai appris ce métier. Et donc, la réalité nous dépasse, les gens nous dépassent, et avec ça, on réinterprète et on redéfinit des objectifs, des programmes, etc. Et donc, les politiques publiques, quand elles sont bien faites, elles tiennent compte du réel, des impacts, et c'est une sorte de ronde, sans fin, redéfinir, etc. Voilà un petit peu, pour moi, ce que c'est.
Merci, Dominique. Anna, je te laisse rebondir.
Oui, je vais certainement être plus courte que Dominique, qui a effectivement beaucoup théorisé sur ces questions, de manière assez pragmatique, je dirais, dans mes fonctions. Ma vision des politiques publiques, c'est finalement toute action à destinée collective ou sociétale prise par quelqu'un, enfin une personne, une assemblée, un exécutif qui a une autorité, en fait, de mission publique, et cette autorité étant conférée, le mandat étant conféré par le peuple lui-même, et qui donc décide d'un certain nombre d'actions qui sont effectivement plus ou moins limpides, plus ou moins exprimées, plus ou moins explicites, et que les bibliothécaires, comme les autres fonctionnaires, finalement sont chargés de mettre en œuvre. Et une fois que j'ai dit ça, et je suis d'accord avec Dominique aussi là-dessus, c'est que cette définition-là brute peut paraître un peu passive. Or, je pense que tout l'enjeu pour le bibliothécaire, pour les fonctionnaires que nous sommes, c'est justement de pouvoir influer sur la nature de ces politiques au titre de notre expertise professionnelle. Et en fait, un des grands enjeux est du dialogue, je dirais, qui doit s'instaurer entre élus et bibliothécaires, c'est cette confiance qui permet de faire en sorte que l'élu, en prenant des décisions, intègre effectivement une vision professionnelle des politiques publiques qu'il va mettre en œuvre. Voilà.
C'est bien. Merci, Anna. On a pris un petit peu de retard, donc ton esprit de synthèse nous est très utile maintenant. Je vais repartir de ce que vous venez de dire tous les deux pour essayer d'amorcer une problématique qui va prendre racine sur la question du positionnement. Dominique, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, la question du positionnement et de la pertinence de ce positionnement au regard de nos missions et des projets politiques qui changent. Donc on a nos missions et ces projets qui vont fluctuer en temporalité, en ampleur, etc. Pour aussi souligner la question de la place du bibliothécaire et des bibliothèques au sein du débat public. Donc, je voudrais qu'on commence sur cette première partie, donc, où on va revenir aux fondamentaux de nos missions et parler du bibliothécaire comme avant tout un agent public au sein de son établissement, au sein de sa bibliothèque. Est-ce que Lana, tu veux bien commencer ?
Au sein de l'établissement, au sein de la bibliothèque. D'accord, je veux bien commencer. Donc, en fait, une fois qu'on a parlé des présupposés politiques, il y a effectivement une mise en œuvre au quotidien, hein, je dirais, de ces aspects, mais toujours en lien avec les aspects décidés par le politique. Alors, la première chose qui influe et qui entre parfois en contradiction avec nos missions et celles finalement des élus, c'est le temps. Le temps, la temporalité, effectivement, tu l'évoquais, Geneviève, n'est pas la même. Sachant que le temps de l'élu est un temps court, au moins normalement, même si certains mandats peuvent se prolonger, mais le temps d'un élu dans ma collectivité, c'est 6 ans. 6 ans pour porter des projets. Le temps du bibliothécaire, hein, finalement, il est beaucoup plus long. Il s'inscrit dans le temps long parce que ses missions s'inscrivent dans un temps long. Elles s'inscrivent déjà dans une histoire qui est importante, l'histoire de la lecture publique, qui fixe un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes tous et toutes très, très, très attachés. Et puis, elles s'inscrivent, ou elles veulent s'inscrire aussi dans un temps long en perspective, puisque nous voulons aussi transmettre à la fois à nos pairs, les bibliothécaires que nous sommes, puisqu'il y a aussi une longue tradition, je le rappelle, de formation des bibliothécaires par leurs pairs, et c'est très, très important, mais aussi pour les publics à venir. Donc, il y a parfois une forme... évidemment, de concurrence, je dirais, parfois, entre ces deux temporalités qui nous mènent à certaines tensions, hein, qui a été évoquée, je crois, par Christine lors de son introduction, et qui sont réelles et qu'il ne faut pas nier. Et puis, après, il y a la structuration du politique aussi et de l'administration au sein de ce grand pays qu'est la France, et qui, finalement, est très complexe. À la fois, elle est limpide dans le binôme qu'elle crée justement, hein, de décision par l'élu, de mise en œuvre et de conseil par le fonctionnaire. Mais Dieu sait qu'on a voulu simplifier le millefeuille administratif français, et puis je ne suis pas sûre qu'on y soit toujours parvenu ou pas encore. En tout état de cause, dans mon établissement, ce n'est pas le cas, puisque j'ai au sein de mon réseau des établissements qui relèvent de la municipalité, de la ville de Strasbourg, mais j'ai également des établissements qui relèvent de la compétence de l'Eurométropole, et pas le moindre, puisque la tête de réseau, le plus grand établissement, est un emblème en soi. Il est eurométropolitain, mais il est situé sur le banc de Strasbourg. Il intègre en son sein des fonds eurométropolitains, mais aussi des fonds villes. Tout ça est très complexe en réalité sur le terrain, puisqu'en fait, ça oblige à avoir plusieurs budgets, potentiellement plusieurs élus. Ce n'est pas le cas pour le cas actuellement à Strasbourg, mais ça peut venir. Effectivement, on rappelait, il y a des échéances électorales qui se rapprochent, et il faut bien aussi se préparer à cette éventualité-là. Et puis au-delà de ça, puisqu'il y a eu aussi cette volonté de rendre accessible un réseau eurométropolitain au sens large, il y a un troisième, je dirais, niveau de réseau, finalement, qui ne relève pas de ma responsabilité, de ma gestion, mais qui est accessible à tout porteur de la carte passerelle, qui s'appelle chez nous passerelle, donc qui ouvre la porte de tous les établissements villes, de tous les établissements eurométropolitains, pardon, et de tous les établissements sur les communes, qui relèvent toujours de la compétence donc municipale, des communes sur le territoire eurométropolitain. Puis comme si ça ne suffisait pas, on en a rajouté une petite couche, mais là, on l'a fait volontairement parce que le symbole était fort. C'est qu'on a également franchi la frontière et on a intégré à ce réseau la bibliothèque municipale de Kehl, qui est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez le territoire, mais limitrophe de Strasbourg. Et on a profité d'une impulsion, en fait, liée au tram, qui traversait le train pour se rendre à Kehl, pour faire en sorte que cette bibliothèque-là aussi intègre notre réseau, avec des difficultés juridiques sur lesquelles je ne vais pas revenir, parce que vous imaginez bien que c'est complexe, mais symboliquement, c'est relativement fort. Donc voilà, ça veut dire déjà 2 exécutifs, plus, en fait, parce que si j'intègre l'intégralité des exécutifs liés au réseau passerelle, lié par une convention, c'était 33 exécutifs. Et la convention est telle que, par exemple, je donne un exemple très clair et qui parlera à tout le monde sur la politique tarifaire, par exemple, si je voulais à présent discuter éventuellement de la gratuité de nos bibliothèques. La convention telle qu'elle est établie actuellement m'oblige à faire valider cette gratuité par l'ensemble des exécutifs. Donc ça veut dire passer devant non seulement le conseil municipal strasbourgeois, non seulement le conseil de l'Eurométropole, mais par tous les conseils des communes concernées. Donc vous imaginez la complexité finalement de cette strate. Je dis souvent par contre que mon travail aussi à la direction de ces réseaux, c'est de faire en sorte finalement que ce soit une très grosse difficulté pour nous, membres de l'équipe de direction, mais pas pour les autres et pas pour les agents. Puisque finalement, ce que je leur dis aussi, c'est que ma vision, elle transcende tout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avancer pour faire en sorte que professionnellement, on sache que nous ne sommes qu'un seul réseau et qu'il n'a qu'un seul territoire à desservir. Mais c'est parfois complexe.
Donc, le bibliothécaire aussi comme facilitateur à ce moment-là.
Le bibliothécaire comme facilitateur vis-à-vis de l'usager qui, lui, visible, ben, lui effectivement, n'a aucune visibilité sur ces difficultés-là, et tant mieux. Lui, il a une carte unique qui lui permet d'aller partout, et c'est très bien comme ça.
Alors, je voudrais revenir, tu as parlé tout à l'heure du temps dans lequel s'insèrent ces politiques, mais aussi, finalement, des traditions dans lesquelles notre profession s'est épanouie, a grandi, etc. Et j'aimerais bien, Dominique, que tu puisses prendre la parole sur cette notion d'héritage qui fait partie de la culture professionnelle du bibliothécaire comme agent public.
Alors, oui, puis on reviendra après sur les questions territoriales qui ont bien été amorcées par Anna, qui sont tout à fait d'actualité. Alors, il est vrai que, bon, moi j'ai ressenti, ça ne s'écrit pas dans des textes théoriques, ça se ressent, ça se voit, ça se constate, mais ensuite ça se décrit peut-être dans un certain nombre de textes, c'est qu'il y a eu une longue tradition, je dirais, d'auto-légitimation des bibliothécaires. Parce que sans doute, alors par exemple en France notamment, et dans le contexte territorial que je connais le plus, il y a eu besoin de se constituer comme profession. Il y a eu besoin de se constituer comme profession, de se sentir légitime. Par... Alors, comme ça
oui.
Ah, bon, il faut vraiment que je suce la glace, là, voilà. D'accord. Donc, on a eu besoin de se constituer. C'était normal et indispensable à un moment donné. Hein. Un corps de doctrine, des formations, les bibliothécaires qui forment les bibliothécaires, etc. La plainte, on ne reconnaît pas notre métier, etc. Constituer un métier, un esprit de corps, bon, tout ça a été nécessaire à un moment donné, probablement. Ça a accompagné un développement extraordinaire. On était au fond du trou en France. Hein. C'est Georges Pompidou qui avait dit en matière de lecture publique, tout est à faire en France. Il avait raison, hein, en 69. On est sorti du trou avec les collectivités locales, avec aussi des élus qui ont pris des décisions, etc., qui ont voté des crédits, avec l'État qui a accompagné. Bon. Cette force de la cohérence professionnelle est devenue à un moment donné un obstacle parce qu'elle ne permet pas bien de s'insérer dans les collectivités locales telles qu'elles sont. Alors à un moment donné, pour le bulletin de l'ABF, bibliothèque, on a fait une sorte d'enquête comme ça, anonyme, on demandait aux collègues « Que pensez-vous des élus ?» etc. Bon, on n'était pas déçus du résultat. Hein. Il y avait une posture d'extériorité absolument extraordinaire. Alors, je ne dis pas qu'elle est peut-être majoritaire aussi exacerbée, mais elle est très importante. Une sorte de distance, une méfiance. Cette méfiance, elle est normale, elle est peut-être un peu systémique, c'est-à-dire que qui est en contact avec des élus, en tout cas des DGS ou DGA qui sont en contact avec des élus, ça va être le directeur ou directrice de bibliothèque, l'équipe de direction, etc. La masse du personnel, non. Donc, c'est normal, cette distance. Il faut après faire un travail pour essayer de... Mais elle existe. Mais en tout cas, il y a eu une longue tradition d'auto-légitimation. Elle avait un regard. Quand on a soi-même une posture, même inconsciente, on produit un message inconscient. Et donc, très souvent, on a eu l'image de bibliothécaires qui étaient dans leur coin extérieur. Combien de fois j'ai entendu, par exemple, des DAC dire « Ah, les bibliothécaires, ils n'arrivent pas à se mettre dans des logiques de politique publique, justement, ils sont dans... » Et alors, on a aussi des instruments pour conforter cette auto-légitimation. Figurez-vous qu'on a une internationale à nous. On a un texte de l'UNESCO, on a toutes des référentiels, etc., qu'on brandit. C'est-à-dire que cet élu qui est tout petit, parce qu'il est, il est simplement élu d'un territoire, nous nous sommes branchés sur le monde entier. On a une légitimité extraordinaire, donc on est grand par rapport au petit. Mais lui, qui a mille choses à faire, mille dossiers, mille etc., évidemment, la bibliothèque n'est qu'un aspect parmi d'autres, elle n'a qu'un service parmi d'autres, donc il est grand quand nous sommes tout petits. Donc il faut bien voir, ce qui est intéressant, c'est de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, pour ensuite mettre en dialogue, bien voir quel discours et quelle posture produit quel effet. Et donc, il y a tout un travail pour essayer d'avoir du recul par rapport à soi et d'essayer d'être efficace. Pour convaincre un élu, il faut être dans son système de référence. Il ne faut pas être dans un langage bibliothéconomique. Ça ne fonctionne pas. C'est incompréhensible, d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc, tout ce travail d'influence qui doit exister, on est porteur de sujets d'intérêt public, ne peut exister que si on sort de ce carcan, cette gangue d'auto-légitimation qui est appauvrissante et qui empêche une bonne insertion dans sa collectivité. Alors, évidemment, c'est à tous ces risques et périls. Il peut y avoir des désaccords, parfois très importants. Ça existe, hein. Mais on n'est pas payé pour, comment dirais-je, appliquer ses propres idées avec de l'argent public, si j'ose dire. Hein. C'est pas ça, le contexte. Si on fait ça, on est dans une logique, je dirais, technocratique. C'est-à-dire, il n'y a de légitimité que les spécialistes. C'est contraire avec la démocratie. C'est un système contraire avec la démocratie. Donc la démocratie est un risque, mais c'est le seul moule dans lequel on peut finalement déclencher des décisions et permettre à nos services d'avoir des moyens de fonctionner actuellement, où les moyens sont pesés, on le sait bien.
C'est très intéressant ce que dit Dominique, surtout l'emploi du mot technocratique. Parce qu'en fait, les bibliothécaires, finalement, nous, on ne se sent jamais techno du tout. On a plutôt l'impression que les technos, c'est les autres. Hein. Les technos, c'est les administratifs, les administrations des finances, etc. Et en fait, en réalité, c'est vrai que l'affirmation en fait, de cette culture qui doit exister, bien évidemment, mais elle peut nous rendre complètement technocratiques et complètement fermés à l'eau. Aux autres dont finalement nous ne pouvons pas nous passer, que ce soit les élus ou les administrations, les territoires s'organisent. Les collectivités territoriales, vous le voyez tous sur vos terrains respectifs, s'organisent grosso modo toutes de la même manière. Elles ont tendance à mutualiser des fonctions, en grande direction, pôle, vous l'appelez comme vous voulez. Et les bibliothèques font partie d'un ou d'une de ces directions pôles, souvent la culture, mais pas que. Parfois, et c'est là où on rebondit aussi sur le discours d'être finalement au centre de plusieurs politiques publiques, parfois aussi au sein de pôles plus sociaux, voire éducatifs, ça peut arriver. Parce qu'en fait, les trois grandes politiques publiques qui impactent, on va dire, les médiathèques, c'est bien cela, la culture, le social et l'éducation. Alors, j'ai envie de dire que finalement, c'est pas une révolution, hein, en vérité, parce qu'on fait un peu d'histoire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis arrivée tout à l'heure, je me suis dit, tiens, on est là tous les deux avec nos crinières blanches. Ils se sont dit, on va prendre les anciens là qui vont venir nous parler des vieux trucs, mais pas du tout. Mais je vous rappelle quand même que, par exemple, la volonté d'agir sociétalement sur l'aspect social, etc., elle est présente, mais dès les débuts. Dès les origines, c'est l'ADN de la lecture publique. L'ADN de la lecture publique, c'est ça, parce que c'est issu du mouvement d'éducation populaire. Et donc l'éducation, le social, ça y est dès le début. Parfois, certains bibliothécaires me disent « ça c'est un changement de notre métier ». Pas du tout. Pas du tout. Ce qui change, par contre, c'est la société elle-même, qui rend parfois ces problématiques plus aiguës, plus difficiles, y compris en service public. Et ça, oui. Ça, je l'entends. Mais le sens, cette mission-là, nous l'avons finalement toujours eue en lecture publique. Et elle explique d'ailleurs notre maillage territorial. Et je suis sûre, là encore, que le mien comme le vôtre. La présence forte des établissements de lecture publique dans les QPV, ce qu'on appelle maintenant QPV, quartier prioritaire de la ville, mais qui a porté d'autres noms autrefois. c'est vraiment le sens qui a été donné à la lecture publique dès l'origine. Donc en fait, cette mission au plus près des publics et au plus près de tous les publics, car j'ai l'habitude de dire, à mes élus notamment, que si l'intégralité des Strasbourgeois et des habitants de l'Eurométropole, tous les habitants ne fréquentent pas les bibliothèques, par contre, je suis sûre que toutes les strates, toutes les couches de population, elles, la fréquentent ou les fréquentent. Et c'est là aussi notre force, et c'est là aussi il faut revenir à nos fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'un bibliothécaire en service public, face au public, et quel public.
Merci Anna. Donc là, tu nous remets dans le vif du sujet qui est vraiment la question de la croisée, donc du dynamisme de ces politiques publiques avec toutes leurs dimensions, hein, à la fois des dimensions, on va dire, très opérationnelles, mais aussi des opérations qui sont plus stratégiques. Je vois que le temps passe et on va du coup essayer d'aller davantage sur cette stratégie. On est parti du positionnement du bibliothécaire au sein de son établissement. Je voudrais qu'on arrive maintenant à cette notion de management et notamment du projet d'établissement comme outil de management et comme aide à la décision. Est-ce que Anna, tu veux rebondir, à moins que Dominique, je vais laisser Anna parler et tu prends la parole après.
Oui, le management, c'est certainement la grande question. Ça aussi, c'est un langage aussi qui peut paraître techno aux bibliothécaires, d'ailleurs, que de parler parfois de management. Et autrefois, pour parler d'autres fois encore, on a l'habitude de dire que les conservateurs étaient toute une génération de conservateurs qui étaient des conservateurs érudits. Et que maintenant, en fait, les jeunes générations de conservateurs, on leur demande d'être des managers de la fonction publique territoriale, bien évidemment, hein, et donc des managers de leurs établissements. Alors, les projets d'établissement au sens large, dans les grands établissements, sont très importants parce qu'en fait, l'échelle elle-même crée une difficulté supplémentaire sur ce qui fait sens pour tout le monde et la capacité qu'ont les agents au sein de leurs établissements de prendre un petit peu de hauteur et de voir l'intégralité du processus et de nos fonctions. Le projet d'établissement, il est clairement, il doit, à mon sens, être impulsé par une volonté politique, on l'a dit quand même aussi, hein, de, quelque part, hein, d'être soutenu, on va dire, par une volonté politique, mise en œuvre par une équipe et en lien et en concertation, bien évidemment, avec les agents eux-mêmes, sachant quand même, et je le dis aussi, c'est pas que de la provocation, hein, mais la consultation et la concertation, ça a aussi ses limites. Parce qu'en fait, si je prends mon exemple et si je consulte mes 250 ou 262 agents, je peux aussi avoir 260 avis différents et auquel cas je ne peux rien décider. Donc en fait, il faut accepter d'intégrer la concertation, l'écoute, mais il faut aussi accepter après et prendre sa responsabilité en tant que directeur que de décider à partir de ces éléments qu'on intègre. Mais le projet d'établissement en soi, pour moi, c'est la volonté de donner un sens global à la lecture publique sur le territoire et de s'inscrire de manière plus pérenne que ce qu'on disait aussi, que l'alternance potentielle aussi des mandats politiques. C'est le moment où on peut affirmer un certain nombre de fondamentaux, de valeurs sur lesquelles on ne reviendra pas, même si on peut revenir sur les modalités d'application de ces valeurs. Voilà.
Je vais prendre un autre micro comme ça fonctionnera. Merci Anna. Dominique, je voudrais te laisser réagir et peut-être que tu pourrais aussi nous, dans ce cadre-là du projet d'établissement, parler de la transversalité sur laquelle tu as beaucoup travaillé et réfléchi.
Alors, ça m'est arrivé d'avoir la chance de conduire un projet de service. Et j'ai éprouvé à quel point c'était extraordinaire, à double face, je dirais. C'est un moyen de faire participer l'ensemble des personnels, en tout cas ceux qui veulent bien participer, hein, tout le monde ne veut pas forcément, mais tout le monde peut, d'approfondir les choses, de trouver du sens à ce qu'on fait, de produire du sens. C'est une sorte de moment d'élaboration collective de ce qu'on appelle l'aide à la décision. Du coup, c'est plus seulement le chef ou la chef qui va faire, etc. Ça va être beaucoup plus partagé. C'est essentiel. Pour une appropriation, il faut participer pour s'approprier les choses. Donc, voilà. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et après, on en arrive à la validation. Et donc, la validation, c'est l'échelon politique qui valide et qui dit « voilà la feuille de route ». Alors, bien sûr, on peut perdre. On ne gagne pas sur tous les tableaux. Quand on fait un projet, on propose et le politique ne va pas forcément tout choisir, etc. Bon. Mais au moins, c'est clair et on sait. Et donc là, on en arrive à l'énonciation de politique publique qui peut être publiée, visible pour les électeurs, pour la population, etc. Donc, c'est essentiel pour ces deux aspects-là. On n'a pas... On n'est pas tout le temps en train de faire des projets de service, c'est cyclique, mais il faudrait peut-être que oui, il y ait une sorte de périodicité de cette chose-là. Alors maintenant, la transversalité.
Je voudrais juste mettre un tout petit bémol quand même à ce que dit Dominique sur la validation qui interviendrait après tout ce travail. Je trouve que finalement, si tout ce travail a lieu pour revenir vers le politique et que le politique retoque, c'est quand même très 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 difficile. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut absolument faire valider par le politique avant que de venir vers les équipes et les faire travailler. Le risque étant sinon qu'ils travaillent en pure perte et Dieu sait que cela crée de l'épuisement au sein des équipes que d'avoir l'impression d'avoir travaillé sur des projets de service. Et je ne le dis pas innocemment, bien sûr, parce que effectivement c'était aussi le cas dans mon établissement. Donc je préfère peut-être inverser la vision en disant la validation politique, la décision politique dans ces grandes lignes, comme tu le disais, Dominique, c'est souvent extrêmement vague, c'est une phrase, etc., mais qui permet de fixer les grands enjeux et qui permet de ne pas travailler en vain, parce que ça me semble très, très important.
Oui, tu as raison, c'est au niveau de la commande, il y a une commande. On peut l'avoir inspiré, etc., conseillé, mais il y a une commande. Donc on travaille parce qu'il y a une commande politique, et à la fin, bon... Alors, le caractère vague, il est normal de ce que... Moi, j'ai une phrase que je dis souvent, c'est que notre boulot, c'est de traduire des orientations politiques en objectifs opérationnels. Alors, ça fait très technocratique, ça. Mais bon, il y a des idées générales par rapport à la population, au bien public. Et puis, c'est à nous d'en faire la traduction concrète. On va faire ci, ci et ça. Et parfois, quand on est retoqué, c'est peut-être sur des moyens, Tiens, il veut y avoir tel bord, puis voilà, bon, c'était le truc, ben non, il n'y a pas les crédits, bon, on verra. Puis parfois, ça revient plus tard. Et c'est vrai que, bon, on ne gagne pas tout le temps, et parfois, il y a des projets qui ont mis des années à sortir de terre, et puis finalement, qui arrivent. Alors, la question de la transversalité, pour moi, elle est essentielle. Quand je dis qu'on a souvent une... Enfin, il peut y avoir dans la tradition professionnelle une posture autonomiste... J'en veux preuve que quand on parle de partenariat, par exemple, on a un partenariat avec le service scolaire ou le service jeunesse. Ce n'est pas du tout du partenariat, ça. C'est la même collectivité. C'est de la transversalité. Donc, le partenariat, c'est avec l'autre. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir quel est l'autre, des associations, etc., telle autre collectivité, secteur privé, tout là. Et puis, la même collectivité. Donc, ce qui est essentiel, c'est de travailler avec des services de la même collectivité. Alors là, il y a une question systémique, structurelle, c'est que ces collectivités, surtout quand elles sont grandes, elles travaillent naturellement en silo. Voilà. Et donc, ce n'est pas naturel de se parler entre deux services qui relèvent de deux DGA différents, etc. Ce n'est pas comme ça que la mécanique est organisée. C'est toujours un effort à faire, mais c'est un effort qui est absolument essentiel. Et donc, c'est vrai que, du coup, les non pas les partenaires au sens de autres, mais les alliés, les associés, dans une même collectivité, naturel point de bibliothèque, ce sont les services jeunesse, ce sont les services enfants, ce sont les services sociaux, éventuellement les services de la ville, politique de la ville, services éducatifs, c'est ça. Et on a des choses à faire ensemble. Ça pose d'ailleurs un problème quand il y a une complexité organisationnelle avec l'intercommunalité, où parfois on perd le lien avec tel service municipal parce qu'on est devenu intercommunal, etc. Il faut faire très attention. Alors tout ça devrait marcher ensemble. Et donc, quand on dit que la bibliothèque est à la croisement, c'était une phrase du manifeste ABF pour les dernières élections présidentielles, je crois, au croisement des politiques culturelles, éducatives, sociales, ça a un aspect concret, organisationnel, c'est avec les gens de ces services, les collègues de ces services. Et on monte des projets ensemble. ou pas. Et donc, on n'est pas dans la, uniquement dans la bulle culturelle, en quelque sorte. C'est pas le seul cadre. Il est très intéressant, très important, mais c'est pas le seul. D'ailleurs, tous les autres services culturels aussi sont concernés par cette transversalité. Hein. On n'est pas les seuls à être au centre. Tout le monde est au centre. Hein. Mais au moins, il faut que ça circule et faire effort de décloisonner sans arrêt.
Alors je plus sois quand même sur ce que disait Dominique, et notamment sur la sémantique. Hein. C'est vrai que les collègues ne sont pas des partenaires, ce sont des collègues. Même s'ils sont dans d'autres services, ce sont des collègues de la même collectivité. Puis je rajoute aussi, juste pour information, aussi, ce qui peut être très important, notamment dans les collectivités peut-être de grande taille, et c'est peut-être vrai aussi dans les plus petites, c'est que je trouve que fonctionnellement, en fait, on a toujours beaucoup de rapports, en fait, dans la manière de fonctionner que les piscines. Alors que souvent, on essaie de se comparer à d'autres services culturels. Hein, je parle vraiment de fonctionnement pur. Finalement, le service peut-être qui est le plus semblable en termes de fonctionnement, de production d'heures d'ouverture, etc., de services, etc., ce sont les piscines. Donc, j'ai tendance à vous encourager, en fait, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous mettre en lien avec vos collègues des piscines, parce qu'on échange beaucoup et je trouve qu'on a des problématiques extrêmement communes. Voilà, ça c'était pour le...
Est-ce que, Anna, tu pourrais, parce que toi, donc, tu es sur un territoire qui est, comment dire, cerné, enlacé, construit sur plusieurs échelons, nous donner peut-être un exemple concret de la manière dont tu mets en œuvre ces différentes échelles de territoire à travers un projet particulier, par exemple ?
Je vais partir peut-être d'un exemple précis. En fait, quand j'ai pris mes fonctions à Strasbourg il y a 3 ans, la première chose que j'ai faite, outre le fait de rencontrer mes collègues, bien évidemment, c'est de me mettre devant une carte, finalement, du territoire dans son ensemble et d'essayer de le comprendre. Et après, a posteriori aussi, de bien mettre sur cette carte mes établissements de lecture publique et d'essayer aussi de voir comment ils s'organisaient dans ce territoire-là. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que structurellement, pour l'instant, en termes d'organigramme, hein, fonctionnellement, on fonctionne sur une gestion en séparé ville, eurométropole, pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, hein, de budgets différents, de tutelles différentes, etc., etc. À terme, ma volonté, la vision que je porte et que je porte auprès de mes équipes, c'est de transcender cet aspect en fait qui est sécessionniste, enfin de séparation, qui pour moi professionnellement n'a aucun sens. Donc, c'est de réfléchir au territoire sous une autre forme. Bien sûr, le territoire, c'est des points cardinaux. Ça peut être un territoire nord, sud, ouest. Est, pour nous, c'est un peu plus difficile parce qu'on est l'Allemagne tout de suite, même si on l'a intégré un petit peu, on l'a dit. Et il y a un exemple, il y a un territoire qui est assez emblématique pour moi, enfin qui m'a semblé très emblématique dès le début, c'était le territoire ouest, en fait. Donc, où on avait effectivement une construction d'une médiathèque eurométropolitaine qui est à 100 mètres, enfin j'exagère, mais à peine, à un saut de puce, en fait, finalement, de Strasbourg. Où, sur ce territoire, finalement, c'est un peu un trou dans la raquette en termes de maillage territorial de lecture publique strasbourgeois stricto sensu. Donc, en fait, on a une médiathèque dite de bassin de vie. Et puis, autour, on n'a pas d'autres équipements, ou très peu, ou le plus petit équipement du réseau, le petit Pousset, la bibliothèque de l'Elzo, qui fait un travail formidable dans un quartier super enclavé, mais qui est vraiment très très petite, avec une équipe de 4 personnes, etc. Et donc ça, c'est un territoire où, à mon sens, on peut et on doit redéfinir les missions de ces médiathèques dites de bassin de vie de l'origine, qui étaient tournées vers le bassin de vie de l'extérieur, hein, vers l'eurométropole, et que je souhaite aussi qu'on retourne vers l'intérieur, c'est-à-dire vers Strasbourg lui-même, pour pouvoir mieux mailler et proposer des fonctions et des missions en fonction des tailles des bibliothèques, des typologies, de leurs équipes, des moyens dont elles disposent. Mais voilà, il faut transcender ça et redire aussi que là, j'en parle et c'est facile parce que j'ai porté cette vision auprès de mes élus et que j'ai fait valider cette vision-là. Mais ça veut dire aussi que dans 6 mois, je dois reprendre mon petit bâton de pèlerin et refaire valider tout ça. Et puis tout peut arriver, je le disais. Hein. Je peux avoir 2 élus à la lecture publique, un pour la ville, un pour le métropole. Et le pire, je peux avoir aussi deux élus qui ne s'entendent pas, qui sont de deux bords différents. On pourrait imaginer ce genre de scénario, que je n'imagine pas une seule seconde, bien évidemment, mais enfin, je m'y prépare. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est là où je dis plus on est fort en termes de vision, nous, de ce qu'est notre métier, de ce qu'est aussi le territoire qu'on dessert et des besoins de la population. Pas les oublier, hein. C'est eux quand même qui sont au centre de nos missions et c'est pour eux que nous travaillons tous et toutes. Plus on est en capacité d'expliquer aussi aux politiques ce qu'on fait, pourquoi on le fait et la meilleure manière de le faire, en tout cas à notre sens.
Oui, donc on revient à la question du sens et sur cette complexité des territoires et des différentes échelles, notamment avec la diversité des formules qui existent au niveau de l'intercommunalité. Dominique, tu dis souvent que les bassins de vie, enfin que ces intercos, c'est d'abord du public.
Alors, moi je dis même population. Pour moi, le mot, c'est intéressant de voir comment on parle des gens qui utilisent les services des bibliothèques. On avait lecteurs, ce qui est extrêmement restrictif, un grand défenseur de la lecture, mais bon, abonnés, c'est absolument affreux, adhérents, c'est pas des clubs, hein, les bibliothèques. Donc c'est des services ouverts à tout vent, y compris pour des gens qui vont venir une fois ou occasionnellement, etc. Et donc, c'est la population, c'est ça le vrai mot politique qui parle à un élu, c'est les populations. Or, les populations, elles vivent comment ? De façon différente, suivant chaque foyer, même au sein d'un foyer, de façon différente, avec des rayons d'action différents, mais en tout cas, il y a la chambre où on le couche, et il y a tout le... Là où on va travailler, on va étudier, s'instruire, se distraire, faire ses courses, etc., utiliser différents services publics, et donc personne n'est enfermé dans des frontières communales. C'est pas comme ça qu'on vit, personne. Or, c'est comme ça que la politique est organisée, la politique représentative, encore fondamentale. J'aime beaucoup la formule de Jean Viard qui parle de la démocratie de la chambre à coucher. Et donc, si on veut penser des services et organiser des services publics, etc., à l'échelle où les gens vivent, il faut bien trouver une meilleure échelle. Alors, évidemment, il n'y a pas de périmètre idéal, parce que cette échelle, elle est différente pour chacun. Mais en gros, ce qu'on appelle grosso modo les bassins de vie, c'est à peu près ça. Et puis les intercos, bon, ben, ce sont des constructions politiques, donc ça ne correspond jamais exactement. Mais enfin, c'est une meilleure approximation. Donc fondamentalement, c'est ça. C'est concevoir des services à l'échelle où les habitants vivent. Et puis aussi, être à une échelle, on va peut-être être plus efficace pour un certain nombre de choses. Donc, c'est les deux aspects. Hein. Population et puis... Alors du coup, optimisation de la gestion, un gros mot ce que je viens de dire. Hein. C'est bien utiliser l'argent public pour garantir les services publics. Et ensuite, il y a la notion de maillage qu'a utilisé Anna, qui est essentielle. Il y a des services dont on a besoin. Le maillage premier, c'est les boulangeries en France. Hein. Celui d'après, c'est les bibliothèques. C'est à peu près ça. Hein. Parce que on sait que la majorité des gens qui rentrent dans une bibliothèque ont mis moins d'un quart d'heure hein, pour y aller. Donc, si on perd ce maillage, s'il y a un trou dans la raquette, comme tu disais, il y a des gens qui ne sont jamais servis. Et il y a des gens qui vont aller plus loin, il y a des gens qui vont utiliser tout un tas de services qui vont être toujours les mêmes, ceux qui savent utiliser tous les services, mais ça va être toujours les mêmes qui vont être les laissés pour compte. Donc, il y a un aspect absolument social de cette notion de territoire. Alors, à partir de là, la construction politique en France, elle est ce qu'elle est. On sait très bien que la réforme territoriale n'a pas supprimé de couches, mais elle a simplement diminué le nombre d'unités. Bon, un peu les communes, il y en a 1000 de moins. C'est plus 36 000, c'est 35 000. Mais enfin, on a grossi les intercos, etc. On a fait ça. Bon, c'est le choix, avec des formules qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Ce qu'il faut, c'est se débrouiller avec le contexte tel qu'il est. Donc, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de formule idéale. Il y a X... complexité éventuellement politique et administrative, mais au moins on a un niveau où on peut améliorer les services hein, et concevoir les maillages mieux adaptés aux différentes populations. En gros, c'est ça. Hein. Sachant que l'intercommunalité, on le sait, est toujours un nain politique, hein, parce qu'aux prochaines élections, on va encore voter pour des équipes qui se présentent commune par commune. Et je lisais dans Le Monde la semaine dernière que la majorité des maires sont encore hostiles à l'élection directe des conseillers intercommunaux. Donc on est dans cette complexité. Hein. Mais voilà, on fait avec et ça peut faire du mieux.
Donc juste sur l'aspect bassin de vie, ce que je disais au début, hein, c'est qu'il y a un aspect, les points cardinaux, les territoires, hein, on fixe des frontières, entre guillemets, quelles qu'elles soient. Mais il y a effectivement ce qu'évoquait en creux peut-être, mais peut-être je voulais revenir là-dessus, les mouvements des populations. Et c'est extrêmement important aussi dans nos établissements, et on le voit bien quand on examine le flux des publics au sein de notre territoire global. On sent bien certains aspects qui nous semblent peut-être d'ailleurs aller à l'encontre, entre guillemets, des territoires cartographiques, en fait, qui sont... Et puis sur le modèle, oui, il n'y a aucun modèle en France. Il n'y a aucun modèle, il n'y a pas de loi sur les bibliothèques, d'une part. Hein, c'est une réalité qu'il faut rappeler. Il n'y a pas un modèle de prise de compétences globale qui soit obligatoire pour les intercos. Est-ce que c'est le bon niveau? Dans la mesure où on s'organise et on veut s'organiser en bassin de vie, on développe d'autres services. Je prenais l'exemple du tram avant, mais qui me semble très, très signifiant. À mesure où on projette d'autres politiques publiques au sein de ces territoires élargis, oui, je pense que c'est un bon niveau d'intervention pour la gestion des bibliothèques, malgré les difficultés et le fait de devoir effectivement s'adapter au contexte tel qu'il est. C'est une richesse aussi. Hein. C'est une difficulté, mais c'est une richesse.
Que de paroles positives. On reste dans ce dynamisme des politiques publiques. J'aimerais que vous puissiez prendre la parole, parce que le dialogue entre Anna et Dominique va bientôt s'achever, mais on a quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions et discuter avec Anna et Dominique.
C'est la première question qui coûte.
Moi, j'en ai une. Vous avez très bien parlé de la structuration des territoires et du rapport aux politiques. Vous avez très peu parlé du rapport entre l'élu et le DGS ou le DGA, qui me semble être un élément qui s'est beaucoup complexifié ces dernières années et qui fait que parfois on vote des projets et en fait et donc on a fait tout ce travail dont vous avez parlé et puis en fait il se passe rien sur le terrain parce que il y a d'autres acteurs qui ont pris une importance une importance qui en termes de gestion ne nous permettent pas d'avancer. Est-ce qu'il y a des quelles sont vos remarques par rapport à ça?
Oui, je vais peut-être répondre en disant qu'en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des élus parce que peut-être le mot même politique nous encourage à le faire. Mais pour moi, quand je disais qu'il y a un travail en fait de coordination à mettre en œuvre, de validation, c'est sur les deux pieds. En fait, le modèle républicain, c'est celui-ci. Il fonctionne sur le pied à la fois politique et l'administration, on va dire l'administration centrale pour nos établissements. Donc en fait, pour ma part, la vision que j'ai, c'est que défendre des projets, porter des projets auprès du politique, c'est aussi parallèlement forcément les défendre au plus haut niveau de l'administration pour être sûr qu'ils soient effectivement validés sur ces deux aspects-là. Sinon, comme tu le dis, Christine, effectivement, si un des deux pieds n'avance pas, on ne marche pas, quoi, ou difficilement, on claudique.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'ai une petite échappée. Parce que là, on brosse un tableau, on a l'air complètement coincé, quoi. On est dans sa collectivité, on n'a pas développé, mais il y a le devoir de réserve, il y a l'obligation de discrétion, on est là pour appliquer les politiques, alors on est complètement embridé. Bon, c'est pas tout à fait ça. Alors, d'une part, il y a une autonomie qui est assez subtile. Il est quand même admis, histoire de la censure, etc., qu'il ne devrait pas y avoir imposition directe des élus par rapport au choix, qu'on appelle documentaire. Maintenant, c'est beaucoup plus varié. C'est aussi tout ce qu'on donne accès à par les réseaux. C'est tout aussi l'action culturelle ou toutes les animations. J'aime beaucoup les directeurs de cinéma d'Est Ensemble qui viennent de demander à leurs élus qui leur demandaient de censurer un film, quels sont les critères de choix des réalisateurs auxquels il faudrait. Bon. Donc c'est une marche, c'est assez compliqué parce que c'est pas garanti par la loi, mais il y a quelque chose là à travailler qui est jamais satisfaisante. Et puis la deuxième chose, c'est que les bibliothécaires ont beaucoup à apporter dans le débat public. Et donc, ils le font organiser en association, en collectif, etc., informel, tout ce que vous voulez, à titre personnel, à de tous les moyens qu'ils ont. Et donc, c'est important d'être dans le débat public aussi. Ça n'empêche pas le fait d'être dans un cadre de politique publique dans telle collectivité ou telle association de collectivité n'empêche pas la présence dans les débats publics, c'est absolument essentiel. Voilà. Et de plus en plus, c'est intéressant de voir comment les bibliothèques, on va le voir tout à l'heure, sont présentes dans les grands enjeux de société, hein, qui vont des données personnelles jusqu'au développement durable, etc., la liberté d'expression. Voilà. Donc, ne pas avoir cette vision complètement coincée, mais accepter le cadre pour être efficace, localement.
J'ai pas eu l'impression qu'on donnait une vision coincée. On a donné une vision coincée de la situation. Et en fait, j'en veux pour preuve, je terminerai peut-être là-dessus. Hein, c'est que sur les, je suis tout à fait d'accord. Je suis même d'accord sur le fait que je pense que c'est parfois difficile à faire accepter aux politiques. Mais je trouve que les bibliothèques de lecture publique devraient devenir aussi des espaces de débat public en l'occurrence. Mais
on
en fait,
on le verra au cours de la
journée. Ouais, je sais bien. Et donc, en fait, je terminerai là-dessus. J'en veux pour preuve que finalement, si on n'a pas, si il y a aucun modèle qui existe au niveau, par exemple, de la prise de compétence des métropoles ou des intercos sur la lecture publique et là en France, si tous les modèles existent. En vérité, c'est aussi parce que les élus sont très attachés à leurs établissements de lecture publique, et y compris dans les petites communes. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même extrêmement positif. Ça veut dire qu'ils y tiennent, parce que parfois c'est le seul équipement culturel public qu'ils ont sur leur territoire. Et donc, forcément, alors, on verra aussi plus tard, je crois, un travail au niveau de l'advocacy, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que je ressens, c'est quand même un très, très fort attachement à ces établissements-là. Et je pense que ça, c'est de bon augure, de toute façon, pour les bibliothécaires que nous sommes. Merci.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup, Dominique, Anna et Geneviève. Pour cette bonne introduction à la journée, hein, qui par votre vision, votre réflexion, replace le bibliothécaire sur le territoire, vis-à-vis des populations, des collègues, mais aussi des tutelles, donc les DG, les élus. Donc là, nous allons passer à la table ronde suivante, qui s'intéresse plus particulièrement à ces relations. Donc j'ai retenu Dominique qui disait tout à l'heure qu'il fallait savoir se mettre à la place de l'autre pour engager le dialogue avec lui. Anna parlait aussi de défendre sa vision auprès de l'élu.